Avant la partition et l'indépendance de l'Inde, en 1947, le pays était majoritairement contrôlé par les colons britanniques, à l'exception de quelques territoires autonomes qu'on appelait les États princiers, dont la gestion était assurée par un souverain local sous protectorat britannique. C'était le cas de cette région du nord-est de l'Inde à la frontière avec la Chine, région majoritairement musulmane, et qui s'appelait alors le Jammu-Cachemire. Le territoire avait été cédé par la couronne anglaise un siècle plus tôt, en 1846, au Maharaja de Jammu, issu quant à lui d'une famille hindoue. De 1846 à 1947, donc, le Jammu et Cachemire a cette spécificité d'être un territoire dont la population est majoritairement musulmane, mais géré et administré par un souverain de confession hindoue. En 1947, au lendemain de la partition et de la création du Pakistan, le nouvel État pakistanais décide d'annexer le territoire du Cachemire et envoie des troupes envahir la région. Des troupes tribales de la région frontalière, encadrées par des militaires de l'armée régulière pakistanaise, convergent alors vers la région de Srinagar, principale ville du Cachemire. Le Maharaja se tourne alors vers l'Inde et requiert sa protection. En réponse, l'Inde pose comme condition de son aide l'annexion pure et simple de l'État princier au territoire indien. Cette annexion est officialisée le 26 octobre 1947 après l'intervention des militaires indiens qui repoussent les colonnes tribales hors du Cachemire. Des affrontements entre les forces pakistanaises et les forces indiennes marquent la première guerre entre les deux pays. Elle prend fin le 1er janvier 1949 suite à l'instauration par les Nations Unies d'une ligne de démarcation de la région du Cachemire. Deux tiers de la région sont attribués à l'Inde, dont la ville de Srinagar, centre historique du territoire cachemiri et capitale d'été du Cachemire, et un tiers passe sous contrôle pakistanais. C'est ce qu'on a appelé la Line of Control.
Line of Control. The highly militarized and fenced border which divides Kashmir between India and Pakistani-controlled parts of Jammu and Kashmir came into existence in 1948, after the two newly independent countries fought their first war over the former princely state. In the aftermath of the 1971 war, the two countries signed the Simla Agreement, a bilateral pact made in July 1972, and the dividing line was renamed the Line of Control, LOC.
Depuis le 1er janvier 1949, les tensions n'ont pas cessé entre l'Inde et le Pakistan. Je retrace en quelques dates près de 70 années de conflit. Entre 1965 et 1966 s'ouvre une deuxième période, particulièrement meurtrière dans la région. Suite au refus de l'Inde d'organiser, à la demande de l'ONU, un référendum d'autodétermination parmi sa population au Cachemire, le Pakistan organise l'infiltration sur le territoire indien de soldats en civil envoyés pour déclencher une insurrection. La manœuvre est cependant rapidement découverte par les autorités indiennes et la situation s'envenime. Les affrontements dureront plusieurs mois et causeront la mort de près de 7000 personnes. C'est ce qu'on a appelé la Seconde Guerre indo-pakistanaise. Des années 80 et le début des années 90, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan marque sans doute l'ouverture d'une période plus dure encore pour les habitants du Cachemire. Le Pakistan accentue son effort en soutien des groupes indépendantistes cachemiris actifs dans la partie indienne de la région d'un côté. Nous parlerons beaucoup dans ce document de ces jeunes gens qui réclament l'Azadi, l'indépendance par rapport au territoire indien, et qui sont victimes d'une terrible répression. De l'autre côté, le Pakistan finance et appuie indirectement des groupes islamiques radicaux venus faire le djihad à la frontière. En représailles, le gouvernement de New Delhi ordonne le déploiement de 500 000 soldats dans la province. Entre 1990 et 1996, la partie indienne du Cachemire est placée sous la tutelle du gouvernement. Des lois d'exception sont instaurées qui permettent de réprimer plus violemment encore toute forme d'insurrection, de revendication indépendantiste. Depuis cette période, plus de 50 000 personnes sont mortes dans ce conflit. Selon les principales associations de défense des droits de l'homme, les militaires auraient fait disparaître près de 8 000 personnes depuis 1989. L'année 2016 a été particulièrement meurtrière au Cachemire après la mort d'un des leaders séparatistes, Burhan Vani, âgé seulement de 21 ans, et particulièrement suivi sur les réseaux sociaux. En ce qui concerne l'actualité récente, le jeudi 13 avril dernier, des élections partielles ont été organisées à Srinagar. Le taux d'abstention a été particulièrement élevé, puisque 90% des électeurs ne se sont pas déplacés. La mort d'un homme, Farouk Dar, a particulièrement marqué les esprits. Il avait décidé, malgré l'appel au boycott, d'aller voter. Sur sa route, il a été arrêté par une patrouille des forces spéciales indiennes. Après avoir été tabassé, les soldats se sont servis de son corps comme d'un bouclier humain pour se protéger des jets de pierre des manifestants, l'attachant à l'avant de leur jeep. Une pancarte autour du. Plus généralement, à lire les témoignages des journalistes et des ONG qui se rendent sur place, ceux des militants modérés qui racontent leurs actions, c'est une région où la police et l'armée agissent quasiment en toute impunité, et persécutent, humilient et vont jusqu'à torturer la population locale. Depuis l'année dernière, une nouvelle arme anti-émeute a été généralisée dans l'arsenal des forces de l'ordre indienne, le fusil à plomb, dont chacun des tirs projette plusieurs centaines de petites billes. Depuis l'année dernière, des milliers de manifestants ont perdu la vue à cause de cette nouvelle arme. Chaque année, des dizaines d'innocents perdent la vie dans une région où tout le monde semble être suspecté. Le 28 mai dernier, suite à la mort d'un chef séparatiste cachemiri, le commandant Sabzam Ahmad Bhatt, un couvre-feu a été décrété par l'Inde. 22 sites internet ont été à nouveau bloqués par le gouvernement, dont Facebook et Twitter. L'interdiction venait pourtant d'être levée quelques heures auparavant, après avoir été instaurée pendant des mois. Autant dire que ces sites ne sont pas accessibles dans la région. Aujourd'hui, la région du Cachemire, surplombant trois pays à un point stratégique d'une zone très compliquée de l'Asie du Sud-Ouest, est une des zones les plus militarisées du monde. Plus de 700 000 hommes sont actuellement déployés pour sécuriser ces zones frontalières, ce qui représente en moyenne un soldat pour 17 habitants. Je termine par cette remarque. L'Inde est la région la plus militarisée du monde, notamment parce que c'est, je crois, la première remarque que tu as faite quand tu m'as parlé récemment de cette période que tu as passée dans cette province particulièrement violente de l'Inde.
Si je me suis intéressé au Cachemire, c'était d'abord après le voyage en Palestine qu'on a fait du coup de décembre dernier, et notamment le passage à Hébron et vraiment dans les territoires occupés où j'ai juste enfin pu toucher un tout petit peu du doigt ce que c'était la réalité d'un territoire occupé et ce que ça voulait vraiment dire d'être de vivre dans une zone militarisée. Et c'est la première fois que j'ai eu un espèce de sursaut quand j'étais à Hébron en parlant avec un Gus qui était vraiment... qui était mon homologue, quoi. J'aurais pu, si j'étais né ailleurs dans le monde, je serais probablement un mec comme lui, ou lui peut-être, tu vois. Et du coup, de voir que ce mec était enfermé dans Hébron et qu'il n'avait pas la possibilité de sortir, il était complètement bloqué à l'intérieur de la ville, le marché a été complètement vidé, enfin, ils se sont fait sortir de chez eux, ils se sont fait pousser en périphérie de la ville, etc. Et c'est la première fois que ça m'a touché vraiment directement, et c'est la première fois que je me suis vraiment identifié à un mec, du coup, qui souffrait du fait de cette... ça fait un moment que la politique, pour moi, c'est quelque chose auquel, où je ne vois pas les incidences que ça peut avoir sur la vie quotidienne ou réelle. Je dis moi, mais je pense qu'on est beaucoup, à prendre ça un peu à la légère. Et là, vraiment, c'est la première fois que, du coup, que tu te rends compte qu'effectivement, une décision politique, ça a quand même un impact hallucinant sur la vie, la vie de ces gens-là, tu sais. Du coup, le Cachemire, malgré... 3 ans à vivre en Inde et peut-être 5 ans en tout à voyager ou vivre en Inde au total en cumulé, à la fin, personne n'a jamais parlé du Cachemire quand j'étais là-bas. Il n'y a pas un groupe d'amis où la conversation aurait dévié sur le Cachemire à un moment donné. Le Cachemire, c'est une espèce de zone d'ombre, un espèce de territoire un peu de terroriste. Il a fallu que je passe par la Palestine et que je réalise quelle pouvait être la réalité d'un territoire occupé pour que je me dise, attends, mais je vis en Inde depuis tout ce temps-là, et il y a cette zone qui s'appelle le Cachemire, qui est un territoire ultra militarisé, etc., dont j'ignore absolument tout, dont personne ne parle jamais, mais dans le sens où personne ne débat jamais, où personne ne se confronte jamais sur qu'est-ce qui se passe au Cachemire et moi, qu'est-ce que j'en pense, tu vois. J'ai l'impression que personne n'a d'opinion sur le sujet, si tu veux. Et du coup, j'y suis allé par curiosité, quoi, plus ou moins. Enfin, juste avec le désir de voir ce qui se passait, juste de m'éduquer moi-même et de me dire, bon, je vis dans un pays que j'adore ou dans lequel je suis hyper heureux et auquel je reconnais beaucoup de défauts, mais à la fin, je suis quand même très content d'être là-bas. Mais juste peut-être se frotter un peu la réalité.
T'étais quand même en tête d'y passer un peu de temps parce que t'étais parti pour un mois tout seul et tu savais que...
Ouais, j'étais parti pour un mois tout seul et surtout, en fait, j'ignorais tout du Cachemire. Et c'était ça qui était intéressant, c'était vraiment d'arriver à Srinagar, d'avoir 2-3 contacts de Gus là-bas, des journalistes ou des photographes, et de vraiment essayer de me dire, bon, vas-y, j'ai un esprit qui est vraiment pas conditionné par ce que j'aurais pu apprendre auparavant, tu vois. J'avais vraiment aucune idée sur le Cachemire, et juste j'avais envie de voir ce que les gens allaient me raconter, j'avais envie de voir comment ils vivaient, enfin, du coup, quelle forme avait l'occupation du territoire, et j'avais envie de voir comment les gens vivaient au sein de cette occupation, tu sais. Et du coup, ben, c'est simple, tu sais, je suis arrivé là-bas, je me suis loué une moto. Et
comment ça se passe? Parce que moi, la première question que je t'avais posée la dernière fois, c'est quand on dit le mot Cachemire, on se fait l'idée, quand on sait pas que c'est cette région-là, quand on sait pas du tout que c'est la région la plus militarisée du monde, on se fait aussi l'idée d'une partie très touristique de l'Inde.
Ouais, mais c'est ça que tu vois qui est aussi troublant, c'est que le Cachemire, il y a toujours cette idée que le Cachemire, c'est le heaven on earth, tu sais, que c'est... Du coup, le paradis terrestre avec des rizières, des petites rivières d'eau cristalline et en même temps des sommets qui lévitent un peu au-dessus de l'horizon, etc. Mais...
Tourism. The state government offers many incentives for the building of tourism infrastructure and New Delhi subsidizes Indian government employees' visits to Kashmir under the Leave Travel Allowance Scheme, which facilitates their air travel to and from the region. The government also massively promotes and subsidizes pilgrim tourism. It began with the Amarnath Shrine, a Hindu pilgrimage to a cave located high in the Kashmiri Himalayas. Before 1990, less than 20,000 pilgrims visited the cave, and the pilgrimage was run by local Hindu groups. The state now actively runs and controls it, and the annual number of pilgrims regularly crosses 500,000.
Mais en fait... Ce qui, moi, m'a vachement troublé aussi, c'était de me dire que même en France, tu vois, à chaque fois qu'on parle du Cachemire, ce sera ça et ce sera rien d'autre. En fait, j'étais troublé de voir que ce que traverse le Cachemire et la population, enfin, ce que vit la population du Cachemire au quotidien, c'est un sujet qu'on n'a jamais, qui n'a jamais été abordé naturellement ou qui n'est jamais venu à moi, tu sais, qui ne s'est jamais imposé, malgré quand même mon désir de comprendre et de connaître l'Inde et d'essayer vraiment de creuser le truc par-delà l'exotisme, de voir ce qui se passait et juste. Aussi, j'ai quand même assorti mon projet de... Du coup, les petits sons que j'ai ramenés, j'ai assorti ça de photos. Et j'avais cette idée c'était aussi pour moi... Enfin, c'est toujours la même chose. J'avais pas envie de faire un projet artistique là-bas. J'avais envie d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que je pouvais mettre la photo au service, du coup, de la parole des gens de là-bas. Et de faire quelque chose qui soit vraiment, autant que possible, down to us, quoi. Tu vois, juste vraiment... essayer de ne pas faire quelque chose d'esthétique, de ne pas faire quelque chose de conceptuel, et au maximum de faire des photos, de ramener des sons, de récolter des témoignages, si tu veux. Et en essayant vraiment de m'extraire au maximum, bien que, enfin, on sait que c'est absolument possible, mais de m'extraire au maximum du projet, de ne pas en faire un projet artistique vraiment, tu vois, avant tout de récolter des témoignages.
Donc t'es arrivé au début du mois, t'as acheté une moto, t'as loué une moto sur place?
Non, en fait, ouais, bon, pour être très précis, je suis arrivé du coup au début du mois. Et tu sais, à chaque fois que tu arrives en Inde, dans un aéroport, tu as toujours des mecs qui se jettent sur toi et qui disent roum, roum, roum et tout, etc. Du coup, généralement, tu les envoies chier tout de suite quand ils veulent te proposer une room. Et là, du coup, j'ai dit au mec, bah ouais, ok, pourquoi pas. Du coup, il m'a amené sur un bon houseboat de touristes.
Ah, tu sais vraiment pas où t'allais là pour le coup, t'es arrivé sans.
Non, parce que je connaissais pas bien. J'avais déjà été à Srinagar, mais j'avais pas. Tu vois, puis un autre truc aussi, si je peux parler de ça. J'avais fait ce projet avec, du coup, le photographe indien que j'ai assisté là pendant un an et demi.
Bharat Sika.
Du coup, il avait fait un long projet au Cachemire et maintenant ce projet est fini. Moi, j'avais fait le premier voyage avec lui. Le projet est plié et il a eu donc une expo pendant la Biennale de Kochi. Puis ensuite, en ce moment, il a eu une expo dans une grosse galerie à Delhi qui s'appelle Nature Morte. Et... Et donc ce show, ça a de la visibilité, tu vois, les gens y vont et on en parle, et c'est un peu un hot topic en Inde en ce moment, tu vois, c'est pour les mecs qui sont un peu dans la photo. Il y a l'expo de Bharat Sika sur le Cachemire en ce moment, et en fait si tu regardes l'expo, moi je trouve ça vraiment écœurant, parce que c'est triste, tu vois, il a passé du temps au Cachemire, et à aucun moment dans tout ce que tu vas regarder, il va parler de ce qui se passe vraiment au Cachemire, tu vois. Il joue avec un espèce de... Il se cache derrière un peu l'idée qu'il y a un concept et qu'il joue avec l'idée du territoire occupé, il joue avec l'idée de la zone de guerre et du terrorisme, et de la paranoïa un peu du fait que derrière chaque Cachemiri se cache un terroriste, tu sais. Et en fait, c'est vraiment le projet d'un mec de Delhi, Bharat et Delhi, qui arrive au Cachemire et qui fait... qui a été nourri complètement par tout ce que les médias parlent... Tout le pouvoir qu'ont les médias pour conditionner les gens sur leur perception du Cachemire, juste il est allé là-bas et il a replaqué ça complètement sur ce qu'il a vu, si tu veux, et il sauve personne, quoi, dans son projet, si tu veux. Et du coup, j'avais été vraiment choqué aussi quand j'avais vu ce photo show de Bharat. C'est aussi ce qui m'a un peu donné envie de repartir au Cachemire et d'essayer, pas le grand justicier, mais d'essayer peut-être de rétablir un petit peu, d'amener une autre vérité, ou quelque chose en tout cas de très épuré, tu vois, où juste c'est des portraits simples et il n'y a pas de bullshit, tu vois, et je suis pas allé photographier un plastique qui fait des reflets sur le soleil, tu vois, parce que j'avais vraiment la sensation d'avoir j'avais besoin de faire des choses qui soient hyper straightforward, dans le sens où juste des portraits très simples, tous cadrés de la même manière et qui essayaient de खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तेरा मेरा रिश्ता है ऐसा एक पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो. Il y a vraiment eu trois étapes dans ce voyage. La première étape, ça aurait été la première semaine que j'ai passée seule à Srinagar, pendant laquelle vraiment il y a une librairie qui est vraiment géniale dans la vieille ville, où ils ont que des bouquins sur l'histoire du Cachemire, sur la politique du Cachemire, etc. Du coup, je me suis attrapé 2-3 bouquins sur le Cachemire et je me suis fait ma culture sur le Cachemire. Et je lisais vraiment. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a beaucoup de presse locale indépendante, en anglais. Et en ourdou, bien sûr, mais bon, du coup, en anglais pour moi. Et t'as pas accès à cette presse-là, bien sûr, dans le reste du pays, peut-être à certains endroits, mais je pense pas. Cette presse-là est très souvent censurée quand il y a des couvre-feux et des émeutes, etc. Ouais. Mais c'est vraiment une presse qui est, du coup, peut-être un peu biaisée parce qu'elle est très indépendantiste. Mais du coup, ça me permettait vraiment de me faire une carte du Cachemire dans ma tête et de comprendre qu'il y avait effectivement différents endroits où il se passait différentes choses, de comprendre que la situation du sud de la vallée du Cachemire, c'était très différent de la situation du nord en termes de militants. Ils appellent ça des militants, mais qui sont, du coup, cette espèce de guérilla qui sortent un peu du sol n'importe quand. Enfin, tu vois, par exemple, dans le nord, les guérillas sont surtout des Pakistanais qui traversent la frontière pakistanaise et qui, du coup, font des attentats plus ou moins dans le nord du pays. Alors qu'au sud, ça va souvent être vraiment des enfants du pays qui grandissent, qui supportent plus l'occupation, qui traversent la zone, la LOC, la line of control, qui traversent la ligne de contrôle pour passer au Pakistan, sont souvent entraînés au Pakistan pendant, je crois que ça va de 6 mois à 2 ans, quelque chose comme ça, repassent la line of control. Et là, déjà, c'est déjà... S'ils ont passé la line of control deux fois, c'est quand même... C'est déjà bien qu'ils ne soient pas morts, quoi. Et ils retraversent. Et là, ils reviennent au Cachemire. Et là, ils font du... Du coup, ils font des attentats, des choses comme ça. Mais pardon, ouais. Ouais, voilà. Du coup, je prends mes repères. Je comprends un peu la situation au sein de la ville. Je vois aussi que tous les jours, je lis qu'il y a énormément de protestes au sein des étudiants, et je vois que les étudiants sont hyper. Enfin, en fait, c'est comme des nouveaux joueurs. C'est comme une nouvelle donne un peu qui rentre en jeu, les étudiants. Et c'est un peu le moment de l'histoire dans lequel est le Cachemire maintenant, peut-être. Tu vois, ouais. Dans le sens où jusqu'ici, c'était des militants qui étaient entraînés par le Pakistan, qui faisaient vraiment la résistance des Cachemiris et qui demandaient l'indépendance. Là, c'est vraiment des étudiants qui balancent des cailloux, quoi. Et juste qui sont nés dans les années 90. Et les années 90, c'est vraiment le regain des violences au Cachemire. Et du coup, qui ont connu que ce cycle de violences. Enfin, c'est des violences qui ont vraiment été non-stop depuis les années 90. Avec la militarisation, tu l'as dit, qui s'est accentuée, qui est passée de 500 000 à 700 000 soldats indiens sur le Cachemire occupé. Et du coup, c'est vraiment eux qui attrapent des cailloux maintenant et qui balancent des cailloux c'est pas vraiment des chars, ce serait les camions anti-émeute de la police et des paramilitaires et ouais. Des militaires et de tout ce qui représente l'Inde, quoi, là-bas.
Là, à ce moment-là, t'as rencontré
Béja? Ouais, à ce moment-là, en fait, non, bah du coup, quand j'étais... En fait, je sais pas trop comment dire le truc, mais en gros, j'ai réalisé du coup qu'il y avait toute cette partie-là des étudiants, donc je savais qu'il fallait que j'aille... me voir des étudiants, quoi. Enfin, du coup, ça m'a permis vraiment de me dire, ok, il faudrait que j'aille voir cette personne-là. Et aussi, ce qui est pas mal, c'est que vu que c'est des petits journaux locaux, tu peux écrire des mails. Les mecs qui signent les articles mettent leur adresse mail. Du coup, tu peux rentrer en contact avec eux, les rencontrer ou non. Enfin, du coup, il y a un photojournaliste que j'ai rencontré comme ça, qui bosse pour Al Jazeera. Du coup, enfin, on a parlé de plein de choses. Il m'a notamment parlé du fait que les filles, les jeunes étudiantes. Mais quand je dis étudiante, c'est vraiment fin du collège, début du lycée, quoi. Les gens, les Stonepelters, les émeutiers ont entre 12 et peut-être 22 ans, quoi. Ils sont tous très très jeunes. Et les filles se sont mises aussi à balancer des cailloux. Et du coup, c'était un peu quand tu vois un peu la place de la femme, du coup, au Cachemire, qui est quand même un peu ambiguë, tu vois. Elles sont quand même très peu de place sur l'espace public. Et du coup, de voir qu'elles prenaient part. Enfin, quoi, aux manifestations, c'est quand même, ça a été perçu de plein de manières différentes par les groupes militants qui disaient surtout n'envoyez pas vos filles, enfin, ils disaient aux parents retenez bien les filles, laissez pas les filles partir faire les émeutes, parce que le jour où il y en a une qui se fera désinguer, ça va juste augmenter complètement les violences et ça sera, enfin, tu vois, ça va vraiment. T'en as parlé de Burhan Vani, le chef du Hizbul Mujahideen, du coup, de ce groupe militant. Après sa mort, c'est ce qui a vraiment créé des centaines d'émeutes et c'était vraiment des cycles de violence qui ne s'arrêtaient plus. Et du coup, ils disent que.
Ouais, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, c'est émaillé par des figures comme ça, charismatiques qui meurent. Enfin, en faisant des recherches, je suis tombé sur 5-6 noms comme ça et on a l'impression que tous les 6 mois, tu as un leader charismatique qui meurt et que sa mort est particulièrement médiatisée et que ça recrée une série de violences. Attends, mais tu disais tout à l'heure que tu avais 3 périodes.
Ça, c'est vraiment la première période où, du coup, essayer de me cultiver un peu sur le Cachemire. La deuxième période, c'est Zuri, ma copine Zuri, qui est venue me retrouver pendant 4 jours et qui est donc, elle est indienne, elle est moitié de Goa, moitié du Maharashtra, enfin, vraiment, rien a priori, rien à voir avec le Cachemire, quoi. Et du coup, elle a vécu un peu en Palestine, etc. Du coup, c'était pas le choc, elle s'est fait à un niveau différent, si tu veux. Ce pourquoi elle a vraiment eu du mal, c'était du coup d'être une femme indienne au Cachemire, si tu veux, d'avoir la peau plus foncée qu'eux d'ailleurs, et d'arriver là-bas et d'être un peu dans cette, dans cette position malgré elle du colon, quoi, de celui qui occupe, quoi, si tu veux. Et c'était horrible parce qu'en fait, du coup, elle était confrontée un peu, tu sais, à toutes ces fables de la nation indienne, etc. Enfin, même on parle de Indian Occupied Cachemire, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Indian Occupied Cachemire? Dans quelle mesure est-ce que les mecs qui vivent au Kerala, à, je sais pas, 3000 km de là, sont l'Inde et occupent le Cachemire, si tu veux? Enfin, c'est vraiment... C'était compliqué pour elle de se soustraire, si tu veux, de la politique de New Delhi au Cachemire. Et elle avait toujours un peu peur que les gens la perçoivent vraiment comme... comme quelqu'un qui serait... comme un soldat indien, si tu veux. Enfin, comme quelqu'un qui représenterait le gouvernement. Du coup, c'était un peu compliqué pour elle. Et la deuxième chose, c'est encore une fois cette histoire de place des femmes dans l'espace public, si tu veux, quand t'es de pas être marié tous les deux et de voyager là-bas. On était quand même soumis à beaucoup d'interrogatoires très régulièrement de la part de la population qui demandait est-ce que vous êtes marié, qu'est-ce que vous faites, nanana. Et en fait, moi, du coup, probablement parce que je réalisais pas ou juste parce que j'ai une perception différente des choses, mais pour moi, c'était pas un... Les gens posent des questions, ils posent toujours des questions, ils sont toujours curieux de savoir d'où tu viens, etc. Alors que Zuri, elle a vraiment pris ça plutôt comme des affirmations. Les questions, elle les prenait plutôt comme des affirmations. Et du coup, je crois que le voyage a été assez douloureux pour elle. Ça n'a pas été très plaisant.
Hello Jimmy, I thought I'd write it out because the text is far too small. It's nice to hear you're starting to scratch the surface of this space, and I'm wondering how I would do that. Does it make sense to make one more reference to Istanbul? Because I feel like I do this a lot. Unfortunately, it seems relevant at this point. In Istanbul, language was a barrier, and gender, maybe, maybe not, maybe it brought attention to me. In fact, it did, but mostly in a positive, exotic way. In the sense that people were curious, but not necessarily aggressive about me being a woman and looking different. It was more a point of beginning a conversation. However, in Kashmir, I could not once forget my Indianness, an identity that, when it begins with a capitalized I, makes me feel a deep and uneasy discomfort, one that comprises of shame, post-colonial anxiety and power dynamics, embarrassment and confusion. Please, don't get me wrong for a moment though. I'm proud of my roots and I value them, but my roots are not Indian. They are Maharashtrian and Goan. I tried to move past it. But each instance where I saw Punjabi, South Indian, Chinese on a restaurant board, I felt the same sadness as when I see it on a board in a restaurant in Goa. Something is being washed away and being forced to conform to a demand that is dominating and blinded to the subtleties of flavors and, at a larger scale, communities. Right now I'm thinking, why didn't I feel the same tension when I walked through the Turkish neighborhood in Berlin or the Turkmen-Kazakh neighborhood in Istanbul? Because I believe that in those spaces there was a sense of settling and of openness. The Turkmen bakery was a Turkmen bakery for the Turkmen community. Same with the Cantonese restaurant in Chinatown that serves a very legitimate daily public practice of everyday life purpose. And I know that using the word settling is incredibly contentious in the context of the Indian occupation of Kashmir. I even find the word Indian problematic because it implies a unified decision of India to occupy Kashmir. But then again, isn't that what Sanjay Kak writes in the introduction? Cultivating an image of paradise and of a tourist heaven. That's what I saw. Unfortunately, maybe reading the book introduction made me focus on it. I saw this unpleasant generic India being cultivated and propagated consistently through the tourism villas and the tours and the tourists. The word tour comes from Old French by Greek and Latin, to turn. Does it also imply to turn in the sense of change? to turn over a new leaf, bring in a new system, a new people, a new identity. And, going back to the beginning, being in Kashmir did not only make me aware of my Indianness, but also my womanness, specifically my non-Kashmiri womanness that happens to be traveling unmarried with a man. My mother and I talked about this, about how there's a very particular moral code that many people follow. And I'm not saying that this is a sweeping statement about each person within Kashmir, but that a lot of the people we interacted with perhaps followed. I felt it in the way people did not look at me or ask me personal questions that were actually statements to begin with. It made me see how there are layers to the politics of oppression and layers to power dynamics. And I do not mean to call anyone else oppressed. My friend Paola in Istanbul once said that I'm an oppressed Indian woman because I have to think about what I want to wear before stepping outside, and this really irked me. But I do instead want to point out that a lot of the primarily men who voice their opinions about Azadi and freedom might not necessarily feel happy with Kashmiri women asking for the same Azadi and freedom to be outside, to move beyond their gender roles and be independent in other ways. I felt strange though, because although many people did not interact or talk with me directly, I felt far more comfortable physically. No one was trying to touch me or come close to me, something that happens very often in Mumbai. Why? I don't think I know enough yet to fully make a statement, but these are my first impressions. I hope it is clear to you. Kisses, Zumi.
Ouais, et donc la troisième partie, ça serait ce moment où, où tu loues une moto et tu décides de. Et tu décides, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que tu écoutes à la radio, que t'entends qu'il y a des manifestations qui ont lieu.
Dans les journaux. Ouais, ouais. Je lis dans les journaux que.
Du pays, et là, tu décides d'y et aller et de faire des sons et des photos.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais. En fait, ouais, il y a les journaux et puis tout ce que j'ai pu lire. Je vois qu'il y a vraiment des lieux importants, du coup, où il y a de nombreux foyers de militants. Par militant, j'entends ce genre de guérillero, quoi, je sais pas comment.
Militant. In 1989, rebels fighting against the political status quo in Kashmir took to arms. And at the peak of the insurgency, there were more than 20,000 armed men in the resistance. India refers to them as terrorists, but many Kashmiris consider them to be freedom fighters and as mujahid or holy warriors. Thousands of them were killed and many disappeared while in the custody of Indian security forces. Since 2005, as a consequence of the ever-intensifying counter-insurgency campaigns led by the Indian Army, there remain less than 500 militants in the fray, perhaps even only 200. Authorities have often categorized militants as locally trained, Pakistan-trained, and foreign. Local Kashmiris are usually included in the first two categories. The foreign militants mostly come from Pakistan-controlled Kashmir and Pakistani Punjab, and locals call them Mehman Mujahid, guest warriors. A little-known fact is that the bulk of these foreign militants came from the families who had been forced to migrate from the Jammu region during the 1947 massacre of Muslims.
Quand tu dis les journaux, mais les journaux, t'es pas décalé. C'est des les annonces de manifestations.
Non,
ou
non, non, bah ils annoncent pas les manifestations, mais c'est des trucs où on dit tous les, voilà, on dit depuis trois jours, il y a les étudiants de Patan District qui balancent des cailloux sur les flics, tu vois.
D'accord.
Et du coup, au bout d'un moment, bah, tu vas à Patan et effectivement, tu vois qu'il y a des mecs qui balancent des cailloux et qui passent la journée à balancer des cailloux. Et...
Donc, alors, la première fois, du coup, que tu décides de...
Bah, la première fois... Non, en fait, tu sais, c'est... je peux pas dire que ce soit la première fois, la dernière fois, c'était vraiment... Je peux pas vraiment te retracer le périple exactement. Sans... En gros, j'avais ma base qui était à Srinagar et je partais, du coup, parfois vers le nord, donc aussi près que je le pouvais de la frontière. Donc là, c'est notamment quand j'allais dans le côté de Tangdar, qui est vraiment à la frontière est, et qui est la seule route qui peut t'amener au Pakistan. Et du coup, là-bas, c'était vraiment impressionnant de voir combien tout était militarisé et comment les gens vivaient mélangés complètement avec les soldats indiens. Et enfin, du coup, les soldats indiens qui se mélangent pas, mais juste te dire combien l'occupation était visuellement choquante, si tu veux, dans le sens où tous les 500 mètres, il va y avoir... un bunker, enfin ils font des petits camps militaires, si tu veux, qui sont faits avec un peu trois fois rien, avec de la tôle Et c'est des cantonnements, quoi, je sais pas comment dire ça. C'est des petites bases militaires un peu partout. Et du coup, ce qui est troublant, c'est que vraiment, tu fais 500 mètres, t'en vois une autre. Et puis après, quand tu lis un peu ce qui se passe dans les journaux, dans ces coins-là, c'est toujours terrible parce que c'est souvent la plupart des familles auront perdu un membre de leur famille. Tu sais, il y a toujours un frère ou un oncle ou un père qui a disparu. Alors, les Indiens diront qu'ils ont probablement traversé la frontière, qu'ils sont allés s'entraîner de l'autre côté et qu'ils ont peut-être été abattus au retour, mais ils rendront pas le corps parce qu'apparemment, si vous voulez, les Indiens, l'armée indienne considère que tous ceux qui passent la frontière pakistanaise et qui rentrent en Inde, quelle que soit leur vraie nationalité, seront abattus et seront considérés comme des terroristes. Et c'est ce qui fait qu'il y a de nombreux corps qui ne sont pas rendus aux familles, et du coup, il y a à peu près il y a 8 000 disparus, tu sais, enfin, les familles attendent encore à savoir est-ce que le membre de la famille est peut-être est-ce qu'il est dans un camp de torture quelque part, est-ce qu'il est en prison, est-ce qu'il est effectivement mort, est-ce qu'il est mort au Pakistan en traversant la frontière. Et du coup, si tu veux, t'as plein de mères, de femmes, de sœurs, etc., qui se retrouvent régulièrement dans un parc de Srinagar, une fois par mois, je crois, et qui attendent, mais vraiment patiemment, en faisant de la résistance un peu passive, quoi, qui attendent que le gouvernement leur donne des réponses et leur explique, enfin, où sont passés les disparus, si tu veux. Et malheureusement, l'ONU, je crois, avait commandé à ce qu'une enquête soit vraiment établie pour essayer de savoir où étaient passés les disparus. Et ça se fait vraiment pas. Il y a des associations sur place, notamment la Jammu Kashmir Civil Society, qui sont des mecs qui ont vraiment fait des recherches et qui ont mis tous les documents à plat pour dire, bon, voilà ce qui se passe maintenant. Est-ce qu'on lance vraiment l'enquête? Est-ce qu'on essaie d'identifier les corps enterrés? Mais tout ça met du temps. Et ça met tellement de temps que le fossoyeur qui aurait enterré toutes ces personnes dans un des villages qui est près de la frontière, qui s'appelait Mohamed, je sais plus quoi, ce mec-là est mort il n'y a pas longtemps. Et du coup, c'est encore des témoignages précieux qui ont disparu, si tu veux. Et du coup, voilà quoi.
Attends, et donc du coup, peut-être que tu peux juste raconter la première fois que tu es allé assister, enfin, assister ou photographier, ou je sais pas, une émeute ou
Ouais.
un affrontement avec la police, parce que ça se fait pas du tout. Enfin, comment ça se passe? Parce que par ailleurs, tu me parlais de ce qui se faisait souvent à la fin des prières.
Ouais. Bah apparemment, moi malheureusement, j'ai jamais. Enfin bon, attends, je vais dire ça. Comment dire? Les émeutes à Srinagar, elles peuvent éclater à n'importe quel moment dans la journée. Du coup, tu peux être en train de te balader, justement partir du parc où j'aimais bien aller jusqu'au mec qui vendait des chai un peu plus loin. Et là, tu vas voir. 3-4 voitures de flics qui vont être posées autour d'une école, et tu vas avoir des mecs sur un toit cagoulés qui sont en train de balancer des caillasses plus ou moins en l'air, et des gars qui ont vraiment l'air d'avoir 16-17 ans, si tu veux, et qui balancent des cailloux un peu à tout va, si tu veux. Et du coup, ça s'est éteint très vite, ils balancent quelques gaz lacrymo, et puis ça dissipe les protesters. Mais autrement, ce qui est ouf, c'est que ça peut vraiment péter à tout moment. À tout moment, les mecs juste se saisissent de cailloux et c'est complètement désorganisé. Et c'est juste. Ouais, en fait, ce qui est terrible, si tu veux, c'est que t'as vraiment la sensation que c'est des jeunes qui sont d'une part hyper sympas et qui sont vraiment des cœurs, enfin, dans le sens où tu sais, tu peux adresser la parole à n'importe qui dans la rue, les gens te répondent, te proposent immédiatement d'aller boire le thé ou de t'inviter à dormir, t'inviter à bouffer, etc., si tu veux. Et vraiment de bon cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment troublant avec les Cachemires, c'est où que t'ailles, tout le monde est heureux de te voir, de te parler, ils sont tous vraiment. Personne n'est aigri vraiment par la situation, enfin, en tout cas dans leur premier rapport, si tu veux. Et du coup, ces jeunes-là, c'est ce qui est terrifiant, et on l'entend un peu dans l'un des interviews, c'est que c'est vraiment des jeunes qui sont poussés à la violence.
How do people get organized also? I'd like to know about this, and I'd like to know also about social media.
It's like in Fridays, after the prayers. The lunch prayers, which we do in the mosque, there is a large gathering.
Yeah.
So we often have it in Fridays.
Okay. Outside, what's the place? Jamia Masjid.
Yeah, there are many places like a Jamia Masjid is.
Mais là, il nous parle
their prayers happen
du stone
more often.
building traditionnel qui
Okay.
se passe
So that's the most
après
exposed
la
place.
après la
I
prière
think
du
that's
vendredi.
because that's the old city.
Donc, quand on la Jamia
Many
Masjid,
places,
on voit que
many
s'appelle Nowata.
massacres happen there.
Yeah.
We have a place over here in a village.
C'est un endroit où systématiquement.
C'est la mosquée. C'est aussi, en fait, toutes les prêches, je crois, sont vraiment indépendantistes. Et du coup, les mecs sont sortis, ils sont chauffés à blanc. Et là, ils voient toujours un camion de keuf. Et là, tout le monde se met à balancer des cailloux dessus.
We have a place over here in a village. There from 7 years to 70 years. Every lady was raped. Every lady.
On en a parlé un peu, il parle des crackdowns. Lors desquels l'armée viole régulièrement les femmes qui sont dans les maisons.
And the remaining ladies, they raped them all. Once, I don't remember the dates, the US president, he had to visit Kashmir. Do you know what the army did? They wanted to highlight this, the cruelty of Mujahideen here. They went to a village and killed every Sikh here. So that it looks like the Mujahideen killed them. About 206 were killed in
ça,
a single
regardé,
night.
J'ai pas retrouvé.
En fait, je crois qu'il fait référence, mais je crois qu'il fait référence à Bill Clinton,
ouais,
qui était
Bill
venu,
Clinton qui est venu,
ouais. Ouais, et qui avait dit que le Cachemire c'était l'endroit le plus dangereux sur Terre.
Ouais.
Et
ce village où 206 personnes ont été massacrées.
Non, mais tu sais, tout ça, c'est toujours. En fait, c'est ça qui est un peu chiant aussi, surtout avec la presse indienne, c'est qu'il y a beaucoup de campagnes de désinformation. Et du coup, là, il fait référence, mais on sait pas qui a tué. Enfin, on sait jamais trop qui a tué qui. On sait juste qu'il y a des Sikhs qui auraient tué
des Cachemiris, prétextant que c'était des terroristes, c'était des Pakistanais.
Non, qui aurait tué des Sikhs, la communauté Sikh, ils auraient attaqué des Sikhs au Cachemire, et du coup que les militants auraient tué les Sikhs pour, alors que ça aurait peut-être été l'armée qui aurait tué les Sikhs, tu sais.
Ouais.
Mais du coup, là il parle de Human Shield, du coup du mec qui a été accroché.
How is it totally fair? Alive guy, they just tied him to the front part of their cars so that no one throws stones on him.
Yeah. And do you feel is there a difference between the protests that are happening maybe in Srinagar and in the rest of Kashmir? Or do you feel, because is it mostly like students here that are actually going out on the street, is it different?
Yeah, because first of all I'd like to say you, the people from cities, the families, the elders from cities, they don't allow us to go there. Because they have seen much miseries, they see how people die during these, how people are blinded. They don't want their young ones to go, to be in the same way.
Yeah.
So they just try to stop that and stop us. So whoever throws stones, he has to keep his identity totally safe, private, from his family, from the army, police, and everyone.
So the family doesn't, your guys' family don't know about it also when you guys go to a protest? Or?
No.
You wouldn't, but would they guess or would they know or do you think? Do you think they're aware, even if you don't tell them, do you think they know
sometimes
that?
Sometimes it happens, but not every time.
Sometimes maybe they do come to know about it,
not every
but
time.
Not
okay.
Always. About 10% they may come to know about it.
Okay.
Otherwise, it's totally private. And then in village, the protests are totally violent, way more violent than in the cities, because there are many in village. You have joint families, many cousins go together for throwing stones and all that. That's why. There are intense protests over there.
And tell me, so how does the protest happen in a very, like, very down-to-earth way? So people go out of the mosque. Are you guys practicing? Like, do you practice religion a lot, or is it?
Sometimes we do. No, we don't practice it.
As in, is it like, do you go to the mosque and do you pray regularly and all that? Or as in, Islam a big part of your life?
Especially when Fridays are.
Yeah.
Every person goes to mosque. So when there is a large gathering, so many people are there. So they just go on streets. A single person starts with throwing a stone and hundreds of people join him. That's how it starts.
Okay. And then how does the protest work basically? Like is it always the same thing that happens? Is it always different?
Sometimes it is a peaceful rally. But even then, the Indian forces, they show no mercy at all. They just start with even abusing us, throwing stones from their side,
using bad language. Yeah.
Il les insulte, c'est assez effrayant, vraiment. Yeah, mais tu le vois vraiment, il a, en hindi du coup, il est vraiment des insultes de bâtard, etc. Mais c'est hyper choquant. Mais écoute, tu t'attends. En fait, ce qui est bizarre aussi, c'est que tu t'attendrais à plus de retenue de la part de l'armée quand même, tu sais. Enfin, on n'imaginerait pas une armée en France des mecs qui se feraient. J'en sais rien, mais.
Bellet,
non, mais.
Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être quelque chose de plus protocolaire dans l'exercice de la violence. Et là, vraiment, c'est.
Ouais, peut-être plus de la part de l'armée que de la police. J'ai l'impression que quand l'armée intervient, il y a quelque chose de plus, comment dire, distancié, de plus militaire.
Ouais,
at a high rate.
Tout est confondu. En fait, c'est toujours hyper compliqué de savoir à qui t'as affaire, tu sais. Est-ce que t'as affaire à l'armée régulière, au para, à l'armée du Cachemire? Enfin, tu sais, c'est toujours. Pas l'armée, pardon, la police du Cachemire. C'est toujours hyper compliqué de savoir à qui t'as affaire.
Even girls also.
But that's a new thing, right?
Yeah.
Girls joining the protest it's a new thing, right?
Yeah, it
it's
is.
Fairly
yeah.
New.
It's, yes. I wanted to show you something.
Wow.
Et ouais.
Working Instagram.
Il avait un Instagram qui fonctionnait sur son téléphone. Parce que tous les étudiants, du coup, utilisent des VPN qu'ils ont sur leur téléphone portable qui leur permettent de se connecter, du coup, je sais pas, depuis Singapour ou quoi, et ce qui leur permet d'avoir accès aux réseaux sociaux. Du coup, tous, ils ont rien à foutre. Enfin, ils dépassent complètement. Moi, j'étais le seul couillon à pas pouvoir utiliser mon Facebook et mon Instagram. Ouais. Alors que eux, mais je te dis, vraiment, tous les étudiants, du coup, ont cette app sur leur téléphone et hop. Non, non, mais ça veut juste dire que. De toute façon, Internet est quand même hyper contrôlé, hyper bloqué.
It goes sometimes 2 or 3 days, sometimes a week long protests happen. Some people enter home, they just go time to time. But this doesn't stop. Sometimes it ends in half an hour. It depends on the people.
It depends
and how
upon
the
people and
how
the forces
react.
How they react upon us.
The more aggression they show, the people get more aggressive from here, our side. If they just go away and rush back, no one. It is about just 30 minutes.
T'as assisté à une scène particulièrement violente que tu.
Ouais, j'ai assisté à un truc en particulier qui était donc à Patan District, qui est ce grand. Ouais, je pense que c'était une. C'est un lycée, quoi. C'est un grand lycée mixte, du coup, dans lequel je suis passé à moto, et là je vois qu'il y a des gens, tout le monde est un peu agglutiné sur un grillage à regarder ce qui se passe à l'intérieur du grillage, et à l'extérieur je vois que les...
Donc là tu venais parce que tu savais qu'il y avait
quelque chose qui se passait, en fait, ou... j'allais à Baramoula parce que Baramoula c'est du coup encore un endroit qui est pas loin de la frontière, si tu veux, et dans lequel il y a eu des massacres de manifestants qui ont eu lieu et qui ont lieu très régulièrement, et notamment je crois un pont qui s'appelle le pont des anges, un truc comme ça, à Baramoula, qui est un des ponts qui passe au-dessus du gros fleuve de Baramoula, et qui est un pont qui a été défoncé hyper régulièrement parce que il y a peut-être 150 personnes qui ont été assassinées sur ce pont. Enfin, faudrait regarder les chiffres, mais c'est du coup je m'étais dit que j'allais essayer de voir ce pont, de faire des photos du pont, et que ça pouvait être intéressant d'avoir des gens qui parlaient du pont, etc. Et en fait, en chemin pour cet endroit-là, je suis arrivé donc à Patan, et j'ai vu qu'il y avait une manifestation, enfin que ça tirait dans tous les sens et tout.
Donc tu t'arrêtes, ça tirait dans tous les sens.
Mais en fait, si tu veux, du coup, c'était assez intéressant, mais malheureusement, je suis pas bon pour. Ouais, mes effets d'hypotypo sont un peu foireux, mais en gros, il y avait le lycée qui est donc un espèce de grand bâtiment. Le grand bâtiment donnait sur un stade de foot, et le stade de foot donnait sur la rue. Et moi, je suis passé dans la rue à moto, et les flics essayaient de rentrer à l'intérieur du stade de foot. Pendant ce temps, tous les jeunes étaient dans le stade de foot ou dans les hauteurs du bâtiment de l'école et étaient en train d'essayer de balancer des cailloux sur les voitures des flics, tu vois. Et du coup, moi, je passe par un truc un peu détourné. J'étais encore avec, j'avais mon casque sur le dos, j'avais foutu mon micro dans ma poche dans la poche de ma veste, et j'avais ma caméra. Et du coup, j'étais vraiment parti pour faire des photos de ce truc-là. Et en fait, ce qui était troublant, c'est que les gens, voyant quelqu'un arriver avec un appareil photo, tout le monde s'est dit super, c'est la presse. Et là, les mecs se sont tous mis à me tirer par le bras et à vouloir me faire rentrer dans l'école, etc. Alors que, encore une fois, enfin, c'est des sensations. C'est vrai que, tu sais, venant de la photo de mode, c'était avoir des shots d'adrénaline comme ça, avec des mecs qui te tirent à l'intérieur d'un endroit où t'es partagé entre des tir gas, là, des tir shells, qui sont les gaz lacrymo, et des mecs qui balançaient des cailloux. J'avoue que je me suis pris des petites suées froides. Mais bon, les mecs me tirent et disent « Ah, c'est la presse, viens, 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 viens. » Du coup, je me fais ramener dans un des pans de l'école, si tu veux. Donc, tous les étudiants étaient bloqués à l'intérieur de l'école, puisque les entrées étaient bloquées. Et les mecs se font gazer. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'ils se font tellement gazer qu'ils tombent inconscients. Parce qu'ils sont tellement dans les vapeurs du gaz moutarde là, que tout le monde s'écrase.
Lacrymogène,
ouais, lacrymo. Et du coup, les mecs, ils avaient fait une espèce de pont humain pour faire passer le gars au-dessus d'un grillage. Et donc, tous les mecs qui devenaient inconscients, hop, ils les faisaient passer au-dessus d'un grillage, mais un grillage qui faisait peut-être 3 mètres de haut, si tu veux, un truc
comme
ça.
Là, on est dans un espace fermé ou ouvert?
Non, bah, du coup, moi, je suis sur le grillage de l'école. Je suis à côté du grillage qui délimite l'école. Et il fallait, pour faire sortir les gars qui sont devenus inconscients à l'intérieur de l'école, à l'extérieur, il y a tous les passants et les gars qui sont à l'intérieur de l'école qui se font passer les corps des mecs inconscients au-dessus du grillage, si tu veux.
Ah, donc là, on est dans la cour de l'école.
On est à l'extérieur de la cour de l'école. Quand on est dans le grillage, à côté du grillage qui délimite l'intérieur de l'école et l'extérieur de l'école. Et du coup, il fallait faire sortir les mecs inconscients. Du coup, les gens faisaient un espèce de pont humain et tout le monde attrapait avec ses mains le gars inconscient. Ils faisaient passer au-dessus des barbelés, etc. Du coup, c'était assez fascinant. Et moi, je me fous là et je fais mes photos, etc.
क्या जी पैलेट यूज करते हैं क्या पैलेट यूज करते हैं या सिर्फ सिर्फ
अंदर अंदर बहुत पड़े हैं पैलेट
वाले हां
अंदर बहुत अंदर जाओ अंदर यहां से
लेकिन क्या रास्ता है पीछे से
मेरे साथ
मैं छोड़ सेफ्टी है पीछे
कोई मसला नहीं है
je peux pas vraiment en dire plus en fait il y a beaucoup de choses qui m'ont troublé il y a notamment il y a un espèce de machisme un peu bizarre dans ces trucs de stone pelting où c'est vraiment tu sais c'est toujours un peu le mec qui a les plus grosses qui va balancer le caillou le plus près si tu veux et du coup c'est aussi celui qui prend le plus de risques parce que tu peux te faire soit knocked out par des gaz lacrymo un gaz lacrymo qui te viendra dans le crâne et t'es cuit tu sais ouais. Ou bien si les flics commencent vraiment à chauffer ils sortent les pellet guns dont t'as parlé qui rendent les gens aveugles
ouais.
Qui
ça, sont ces espèces de billes de plomb là.
Ouais les billes de plomb qui rentrent dans les yeux d'un peu tout le monde dans la chair et dans les yeux de tout le monde.
Ouais, j'ai vu des photos, c'est...
Ah ouais, c'est...
C'est le truc qui reste, et en plus, il paraît que le plomb qui est utilisé, comme c'est évidemment du mauvais métal, il finit par rouiller, et ça déclenche des cancers de la peau, enfin des trucs.
Mais il y a ça, et puis surtout, il y a des gamines de 4 ans, des gamins de 4 ans, il y a notamment une gamine de 12 ans sur laquelle j'ai vu un documentaire là-dessus, mais... Et qui se prennent des pellet guns juste parce qu'ils sont à leur fenêtre. Il y a une manifestation qui se passe en bas de chez eux. Et parce qu'ils habitent dans le vieux Srinagar. Et dans le vieux Srinagar, il y a souvent des manifestations. Et il y a plein de gamins qui sont aveugles pour les... enfin pour les années à venir, enfin pour des années à venir, si tu veux, à cause de ces pellet guns, si tu veux. Et du coup, c'est vraiment l'armée qui, tu vois, parfois même les mecs de l'armée vont, c'est un truc que j'ai lu, c'est des témoignages que j'ai lu où les gars de l'armée vont tirer sur les jambes des manifestants. La plupart du temps, ils tirent quand même sur le visage et sans aucun problème, mais souvent, ils vont tirer sur les jambes des manifestants pour plus tard, quand ils font des crackdowns dans les villages, c'est-à-dire qu'ils font sortir tous les hommes du village et ils les questionnent tous les uns après les autres, et ben, ils peuvent repérer ceux...
Mais ça, c'est une technique d'intimidation qui est assez courante.
Ah oui.
Non, je sais pas, j'ai cru.
Bah si, c'est assez courant, effectivement. Ouais. Du coup, les mecs sont marqués, ils ont des traces de blessures au niveau des jambes.
Ça veut dire qu'ils ont été... Non, je parle de ce que tu parlais quand tu dis les crackdowns.
Ah ouais, sur les crackdowns. Les crackdowns, c'est pas quelque chose auquel j'ai pu assister. Quand j'étais là-bas, il y avait pas mal de cordons, justement, ils appellent ça cordon en anglais. C'est-à-dire que la police, les paramilitaires, etc., entourent complètement une région ou un village dans lequel ils ont des suspicions qu'il peut y avoir... ce que eux appellent un terroriste, ce que les Cachemiris appellent un militant, et du coup là c'est vraiment, c'est, je crois que c'est hyper traumatique pour beaucoup des gamins à qui j'ai pu parler, enfin des mecs qui ont 18 ans et qui racontent que dans leur enfance ils ont vécu des crackdowns, c'est-à-dire que en pleine nuit t'as ton village qui est complètement encerclé, tout le monde se fait sortir de chez eux, les femmes restent à l'intérieur de la maison, les militaires rentrent dans toutes les pièces, ils foutent tout en l'air à la recherche d'armes ou d'informations, et pendant ce temps les hommes et les enfants sont à l'extérieur et on les fait marcher du coup en ligne devant des délateurs qui sont mis à l'intérieur de jeeps avec des vitres teintées, et ces délateurs qui, donc en ourdou on appelle ça les mukbir, qui sont du coup devenus délateurs pour des raisons toujours un peu bizarres, soit c'est parce qu'ils étaient militants puis ils sont fait attraper et tellement torturés qu'ils finalement ils ont accepté de devenir délateurs, soit c'est parce que c'était des Cachemiris qui ont, du fait des militants, qui ont perdu des proches du fait de dommages collatéraux, d'attentats militants, si tu veux. Du coup, ils rejoignent, ils deviennent délateurs pour l'armée, etc. Et du coup, ces délateurs, une technique qui apparemment est beaucoup utilisée, c'est le fait que les gars sont donc dans la Jeep, et à chaque fois qu'ils voient une personne qu'ils ont envie de rendre suspicieuse, ils font des appels de phare avec la Jeep, et à ce moment-là, que ce soit un enfant ou un adulte, ils sont embarqués, et là, les familles ne savent jamais quand est-ce qu'ils vont les retrouver, parce que les témoignages que tu lis sur les centres de torture au Cachemire, de Srinagar notamment, un truc qui s'appelle Papa 22 notamment, c'est à vomir, quoi, quand tu lis les témoignages de ces mecs-là. Ils se font poser des électrodes sur la bite et on leur... Après ça, ils sortent du truc. Des années plus tard, ils peuvent plus se marier. Ils sont devenus complètement impuissants, etc. Enfin, dans une société quand même où... Enfin, le mariage, ça veut dire probablement plus qu'ici en termes de rapport dans ta communauté, etc. Et du coup, tu vois, il y a aussi tout un truc sur cette virilité dont je te parlais, là, quand je te parlais des émeutiers, où les émeutiers, c'est toujours c'est ceux qui sont quand même les plus courageux, etc. Il y a un côté, expression de la virilité aussi dans ces moments-là. Un petit peu que moi j'ai ressenti, si tu veux, où tu sais, t'es vraiment entre boys et tu sais, ça se pousse un peu à faire des conneries un petit peu, si tu veux, et c'est vraiment celui qui a le plus de courage, celui qui est le plus vaillant, etc. Il y a même un titre, malheureusement, que j'ai oublié, mais un mot ourdou, qui qualifie les meilleurs lanceurs de pierres, si tu veux. Du coup, il y a quand même toute cette ambiance un peu virile qui encale le truc, et le fait que l'armée, quand il les torture, s'attaque aussi aux parties génitales, je pense que c'est peut-être un peu lié, même si tu veux regarder ça en termes peut-être un peu automatiques, mais plus politiques, à mon avis, ça dit pas mal de choses sur la manière d'asservir le Cachemire et les techniques utilisées, tu vois, ça me semble peut-être un peu assez symbolique, tu vois, cette pratique, ce type de torture.
Papa 22, c'est...
Papa 22, du coup, c'était un palais d'un des rois du Cachemire, que tu as dû citer, mais je ne me souviens plus exactement de son nom. Et ça a été tourné en centre de torture immense dans lequel les mecs étaient parqués avec de la lumière blanche toute la journée et des longues séries de tortures, etc. Et ensuite, le jour où ça a été fermé...
Ah, ça a été fermé.
Ouais, ça a été fermé. Et
maintenant, ça a été fermé pourquoi ? Parce que...
Ça a été fermé parce que c'était quand même une très belle bâtisse et ça a été récupéré par un haut dignitaire indien, je pourrais dire le nom, mais je ne l'ai pas là, qui a récupéré l'endroit pour s'en faire sa baraque. Mais malgré tout...
Rien à voir avec le fait qu'on a soudainement appris, par exemple, que c'était un centre de torture.
Ah non, mais il y a encore des centres de torture. Maintenant, tous les anciens cinémas de Srinagar sont fermés. Et certains ont été transformés en centres de torture. Il n'y a pas un cinéma à Srinagar, quoi. Ce qui, pour l'Inde, est quand même quand même assez, assez aberrant. Tous les cinémas ont été fermés et ont été transformés en centres de torture. Pas tous, mais il y en a qui sont très connus et qui sont devenus des centres où les, où de paramilitaires, des espèces de... Comment dit, ils ont été réquisitionnés par les paramilitaires et c'est là-bas que se passe un bon nombre de tortures, apparemment, enfin, d'après les témoignages. Et pour Papa 22, c'est quand même assez marrant. Le mec, marrant, bah, le mec a récupéré du coup cette, cette grosse baraque pour se la refaire faire pour lui. Avant de vivre dans la maison, il a fait venir du coup un prêtre musulman et un prêtre chrétien, un prêtre hindou pour exorciser toute la baraque avant de vivre enfin dedans, quoi. Du coup, bon, c'est aussi lié aux superstitions des, aux Indiens qui sont particulièrement superstitieux. Mais bon, je pense qu'il savait que, enfin, il avait bien conscience que s'était passé des trucs pas nets par ici.
Bah, à un moment, on parlait de cette appellation de terroriste, mais peut-être que ça, ça pourrait venir à la fin, je sais pas. Enfin, ça fait aussi partie de la propagande indienne et. Mais peut-être juste, moi j'ai une question quand même. Je te la pose parce que moi, elle me trotte dans la tête, c'est. Mais c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on a quand même l'impression que les flics sont dans une drôle de position parce qu'à la fois ouais. ils doivent réprimer les manifestants et ils le font très 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 violemment et en même temps il y a cette espèce de drôle de chose qui est que enfin, est-ce qu'ils sont vraiment concernés par, tu vois, par cette région qui veut prendre son indépendance, est-ce que comment dire, est-ce que les flics répriment des gens dont ils pensent qu'ils sont réprimandables et qu'il faut les réprimander ou est-ce qu'ils le font ouais, parce ouais. qu'ils
non ils le font Du coup, si tu veux, ce qui est bizarre, c'est ces histoires d'oppresseurs et d'opprimés, tu vois. Et bah, je pense que je suis pas resté quand même assez longtemps pour avoir une vision vraiment précise et claire de ces rapports-là. Mais ce qui est troublant, c'est que, du coup, les militaires sont quand même infects avec les Cachemiris. Ils sont vraiment... Alors qu'ils vivent ensemble quand même, tu l'as dit, il y a un militaire pour 17 habitants. Et du coup, ils vivent... pas ensemble du tout, quoi. C'est très séparé. Les militaires sont extrêmement suspicieux de l'activité de tous les Cachemiris qui sont tous considérés comme étant potentiellement des terroristes ou des Stone Pelters. Et du coup, ils vivent dans le même territoire, mais ils vivent avec quand même une haine assez. Assez forte, ouais, vraiment une haine qui est palpable, quoi, entre les Cachemiris et les militaires. Et si tu veux, ce qui est assez bizarre, c'est que les militaires sont toujours hyper suspicieux et t'es mené quand même à leur parler très régulièrement parce qu'il y a beaucoup de checkpoints dès que tu te rapproches de la line of control. Du coup, à chaque fois, du coup, ils t'arrêtent, ils te posent, c'est toujours le même interrogatoire avec toutes les questions de base, etc., sur d'où tu viens, pourquoi tu fais ça, etc. Moi, ils étaient quand même aussi très suspicieux parce que je passais moyen pour un touriste dans le sens où je parlais hindi avec eux. Et donc ils étaient quand même, je sais pas, pour eux ça les interpellait et ils trouvaient ça étrange que quelqu'un qui parle hindi vienne se balader par ici en simple touriste à moto. Et que... Du coup c'est pour ça, je pense
tout
que ça...
Seul, enfin,
ouais, tout seul, avec un enregistreur, une caméra et beaucoup de films dans son sac, etc.
Il fouillait à
chaque fois. Ouais, il checkait toujours au moins le sac qui était devant moi, qui était mon sac avec ma caméra et mon enregistreur. Et
tu disais quoi du coup là?
Et ben du coup je leur disais, ben, il fallait que je me défende, quoi, il fallait que je leur dise non, je travaille à Bombay, moi ça fait 3 ans que je travaille à Bombay, là juste il fait trop chaud en ce moment à Bombay, du coup j'ai décidé de venir passer un mois au Cachemire, juste pour le plaisir, visiter un peu, c'est vraiment très beau, hein, nanana. Et du coup je mentionnais jamais, je disais rien de particulier, tantôt je parlais un peu de la situation en disant, mais quand même, en tant que touriste c'est quand même chiant, hein, tous ces checkpoints, c'est un peu limite et tout, tu vois. Mais du coup, ils se détendaient. Mais je voyais que si j'étais dans la conversation et qu'il y avait un Cachemiri qui arrivait et qui lui aussi se faisait checker, le mec se faisait dégager, genre il se faisait vraiment insulter. Il leur parlait, tu sais, en hindi, avec vraiment les niveaux de langage qui sont les plus faibles, tu vois, ils utilisaient le tout. Le tout, c'est vraiment c'est le tu français, mais que tu utiliserais uniquement pour parler aux enfants, si tu veux. C'est vraiment complètement informel. Du coup, ils les traitent vraiment comme des chiens, si tu veux. Et... Mais alors moi, une fois que toute cette suspicion s'était un peu évaporée dans nos conversations, je pouvais leur dire, vous venez d'où? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Depuis combien de temps t'es en poste? Enfin, vous faites quoi? Depuis combien de temps vous êtes en poste ici, etc. Et en fait, je réalisais que souvent, les gars qui rejoignent l'armée, c'est des mecs qui viennent de bleds un peu paumés, de différents endroits de l'Inde. Je te parle des troufions, quoi. Je te parle des mecs qui sont vraiment au checkpoint et qui restent réveillés, qui font des chiffres de 12 heures avec une grosse calache entre les mains et qui sont juste là pour poser des questions à la population. Je parle pas de tous les généraux qui eux passent dans des gros SUV et qui traversent à tous les feux, qui font écarter complètement le trafic dans tout le, enfin, qui ont complètement le passage à chaque fois. Ça, à mon avis, ça doit être différent. Mais en tout cas, pour ces mecs-là qui sont vraiment des mecs qui viennent des quatre coins de l'Inde et qui sont issus de la classe moyenne inférieure, même si c'est quand même c'est pas très représentatif d'utiliser des, ouais, des mots comme
c'est
ça.
C'est pas la classe moyenne. Ouais.
Ouais, et du coup, ces mecs-là viennent aussi pour quitter des situations économiques difficiles de la Wisconsin. Du coup, ils joignent l'armée et ils se laissent nourrir, tu vois, de toute cette fable nationaliste de New Delhi, si tu veux. C'est-à-dire que le Cachemire, ça fait partie de l'Inde et que la constitution... légalement, les militaires doivent être là pour faire en sorte que la constitution soit respectée. Le Cachemire, c'est un état de l'Inde et ça doit rester un état de l'Inde. Et du coup, il est hors de question que l'indépendance soit demandée, etc. Et en fait, quand tu leur parles, ouais, voilà, tu réalises qu'en fait, c'est des mecs qui sont quand même aussi gentils, si tu veux. Les Indiens sont quand même plutôt gentils. C'est pas des, tu sais, c'est, ils sont pas hargneux, quoi. Les premiers rapports sont souvent... assez doux et du coup c'est juste une curiosité un peu innocente quoi tu sais et ouais juste en fait tu réalises que c'est des mecs qui sont du coup peut-être un peu opprimés économiquement je sais pas si c'est très juste de dire ça mais qui quand même du coup ouais, viennent de milieux compliqués et qui joignent l'armée du coup pas tellement par vocation mais aussi parce que c'est un endroit où il y a du travail et t'es quand même t'es nourri blanchi tu vis dans un endroit enfin tu gagnes un peu d'argent et tout. Et donc voilà, quoi, il y avait ce truc bizarre de ces mecs-là qui, en plus, qui viennent et qui oppriment les Cachemiris. Et enfin, tu vois ce que je veux dire, cette espèce de rapport oui. De pouvoir un peu étrange où finalement, souvent, je me disais que c'était quand même bizarre d'être. Qu'il y a un conflit qui soit aussi important et finalement qui soit pas tellement lié à la nature des gens qui sont, eux, vraiment impliqués, à savoir la population et l'armée, tu vois, des gens qui sont quand même. Pas des mauvaises âmes, tu vois, pour dire. Et qu'en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui sont aux prises de décisions politiques qui les dépassent complètement et chacun, enfin, et qui se retrouvent bloqués dans une situation où ils sont juste en face à face à s'aboyer les uns sur les autres, mais que la situation pourrait vraiment être différente, tu vois. Et ça vient pas d'une conviction profonde de chacune des personnes d'être mauvais avec son prochain. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Et c'est la première fois que j'ai senti, du coup, que vraiment des rouages politiques plus vastes avaient une incidence sur le terrain, mais au plus profond de la vie quotidienne des habitants. Et ouais, les soldats étant aussi des habitants, je pense. Et c'est pour ça que, tu vois, que très récemment, Macron qui accueille Modi à Paris et les deux qui se font des grandes embrassades dégueulasses sous l'Arc de Triomphe, bah, j'ai trouvé ça, enfin je trouve ça un peu infect dans le sens où c'est eux qui ont, finalement c'est ces gens-là quand même qui ont le pouvoir et c'est ces gens-là qui ont la capacité de changer la situation de toute cette population et en fait l'Inde, si tu veux, si l'Inde c'était un pays fermé et c'était un pays complètement fermé qui serait sans aubaine économique pour les pays étrangers, et ben on dirait que l'Inde c'est une dictature qui devient de plus en plus extrémiste et radicale dans ces histoires d'Hindutva, de vouloir avoir un état hindou, etc. Et je pense que il y aurait probablement pas de grandes embrassades entre Macron et Modi, si tu veux. Mais le fait que c'est tellement une manne économique, etc. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est tous, finalement, même à l'extérieur, tu vois, cette histoire de la plus grande démocratie du monde, bah, c'est finalement quelque chose qu'on avale sans aucun problème, si tu veux. Et j'ai quand même un peu la sensation que ces problèmes de droits de l'homme au Cachemire sont finalement aussi pas entrepris, enfin, pas regardés, pas soulevés. Bah parce que l'Inde est cette manne financière énorme et que ce sera un acteur économique, un acteur économique majeur déjà qui va l'être de plus en plus. Et du coup, c'est pas le moment de se foutre l'Inde à dos, si tu veux. Et du coup, je trouve que c'est une manière de faire des concessions qui, moi, que je trouve un peu dégoûtante. Tu vois ce que je veux dire ou pas
Mais est-ce qu'on peut juste reparler du coup de cette appellation de terroriste? Parce qu'on a l'impression que les gens qui sont en dehors du Cachemire, les Indiens, entendent des Cachemiris que ce sont des terroristes. On a l'impression que la population militaire installée aujourd'hui au Cachemire considère la plupart des Cachemiris comme des terroristes, en tout cas n'importe quel habitant comme un terroriste potentiel.
Ouais, exactement.
Et en plus, il y a quand même le Pakistan qui finance, on le sait, dans les zones tribales, ces groupes d'islamistes radicaux qui régulièrement viennent faire le djihad au Cachemire, qui eux sont des terroristes pour la communauté internationale. Donc il y a quand même trois appellations de terroristes là, qui viennent se mélanger.
Ouais.
Comment est-ce que... Enfin...
Tu sais, c'est délicat parce qu'il y a plein de choses. Effectivement, tu parles, par exemple, du coup, le plus grand groupe militant en ce moment au Cachemire, longtemps ça a été un groupe qui s'appelle le Jammu and Kashmir Liberation Front, qui est né dans les années 90, et dans les années 95, ils ont décidé de déposer les armes et d'uniquement agir, mais à travers la politique, si tu veux. Et du coup, ils se sont dit que de toute façon, la violence allait rien résoudre et qu'il fallait lâcher les armes. Ce qui n'a pas plu à tout le monde. Et il y a eu ce groupe qui s'appelle le Hizbul Mujahideen, qui est lui, pour le coup, un groupe vraiment de militants armés par le Pakistan, qui comporte du coup dans ses rangs autant des Pakistanais qui viennent, qui traversent la frontière et qui font cette guerre, qui mènent un peu cette guerre au sein du Cachemire, autant que de jeunes Cachemiris du sud du Cachemire principalement, qui eux traversent au Pakistan, reviennent et font partie du Hizbul Mujahideen. Typiquement, tu as nommé Burhan Vani, qui était du coup le chief commander du Hizbul Mujahideen et qui était vraiment un gamin de la région, qui est devenu chief commander, qui a pris les armes et qui était vraiment très respecté, même un peu, qui est devenu une idole sur les réseaux sociaux, etc. Et qui s'est fait du coup désinguer par l'Inde comme étant un terroriste, du coup, de sang-froid, quoi.
Il a été tué dans son village.
Il a été tué à. Adnantnag, dans le district d'Anantnag. Et en fait, tout ça, c'est vraiment une question de perception pour eux. Cette histoire de terroriste, en fait, c'est quand même dur. Tout le monde est potentiellement un terroriste, mais en fait, tout le monde est aussi potentiellement un militant qui réclame l'Azadie, quoi. Et de la même manière, l'Azadie, du coup, ça veut dire la liberté. Et quand tu leur demandes « Aplok Kya Chahiye », ils vont te répondre « Azadi », ce qui est d'ailleurs un des grands slogans dans toutes les manifestations, ça commence comme ça, « Hame Kya Chahiye, Azadi, Azadi ». Et en gros, ça veut dire « Qu'est-ce qu'on veut ? On veut la liberté, on veut Azadi », qui est du coup un mot plus ourdou que hindi d'ailleurs, du coup, qui vient plus de l'arabique que du sanskrit. Donc, du coup, c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Mais ça veut dire tout et son contraire, quoi. Pour certaines personnes, l'Azadie, ça veut dire rejoindre le Pakistan. Pour d'autres personnes, l'Azadie, ça veut dire avoir un État qui soit vraiment indépendant, qui soit peut-être que le Cachemire indien, ou alors le Cachemire indien et pakistanais réunis en un État indépendant, ou bien l'Azadie, ce que moi, je considère, pour moi, ce qui est le truc le plus valide, mais que je n'ai pas vraiment entendu de la bouche des gens, mais d'après ma compréhension du truc, c'est plutôt ça. L'Azadie, c'est le jour où l'Inde sortira du Cachemire, en tout cas, les militaires indiens sortiront du Cachemire, et que les Cachemiris, au quotidien, arrêteront de subir cette humiliation infecte, de se faire checker toute la journée et d'avoir un curfew. Tu te rends compte que depuis les années 90, il y a un curfew tous les soirs. À 21h, les villes sont mortes, quoi. Il n'y a plus personne dans la rue, il n'y a plus personne sur les routes. Il n'y a pas de vie nocturne du tout, si tu veux. C'est le curfew.
Tu peux pas sortir.
Tu peux sortir dans les trucs un peu touristiques, tu peux sortir, mais tu sais que tu seras questionné très rapidement et tu vas te faire attraper très rapidement par un checkpost ou par un camp militaire. Et du coup, ça peut toujours très mal tourner, quoi. Parce qu'il y a un curfew et que tu enfreins le curfew quand tu sors en pleine nuit. Du coup, moi, pour moi, c'est ça. Azadie, à mon avis, ça veut avant tout dire. Parce que honnêtement, j'ai pas des grandes connaissances en économie, mais je vois bien que le Cachemire, c'est un État qui a quand même très peu de ressources, on en a parlé. Et du coup, c'est un État qui est indépendant économiquement, qui aura pas de. Enfin, pour lequel ce sera très compliqué. Puis même, comment imaginer un État indépendant, le Cachemire, il y a 5 millions d'habitants, quelque chose comme ça, au Cachemire. Comment est-ce qu'on peut imaginer un espèce de tout petit pays un tout petit pays qui fait en termes de territoire, c'est tout petit, c'est une vallée, quoi. À l'échelle de l'Inde, c'est rien du tout. Et ce pays-là, du coup, qui serait indépendant entre le Pakistan qui a envie d'annexer, entre l'Inde qui l'aurait laissé partir. Et tu vois, ça paraît. Moi, au vu de mes petites connaissances de géopolitique, à mon avis, ça me paraît pas viable du tout. Du coup, je pense que ça soulagerait énormément la population si l'occupation militaire, en tout cas, cessait. Si l'occupation politique pouvait continuer, ça serait, à mon avis. Moins un problème si les élections étaient plus proches des désirs des gens, parce que maintenant quand il y a des élections, tu en as parlé, il y a des boycotts.
Il y a une élection là récemment,
elles sont boycottées,
90% des gens ont refusé d'aller voter parce qu'elles sont boycottées par les indépendantistes, mais aussi parce qu'il y a, je crois, un vrai risque de se déplacer et d'aller voter.
Elections. In Kashmir, elections are viewed through a different lens. Elections are seen as rigged and manipulated, a military-driven exercise to buy people's loyalties towards the pro-India political parties. Voters often say they participate in the polls only to ensure the delivery of essential civic services and the development of local areas, and their participation should not be misconstrued as a vote in favor of India. In their speeches, electoral candidates also seek votes for the same reasons, but rarely contradict New Delhi's post-facto interpretation of elections as demonstrations of public approval for Indian rule.
Ah oui, oui, mais le risque, du coup, il vient, je ne sais pas exactement de qui vient. Est-ce qu'il ne vient pas des indépendantistes qui t'interdisent d'avoir l'accès au vote aussi? Parce que du coup, si tu veux, c'est aussi effrayant. Les partis qui sont en Inde et qui sont proposés pour le Cachemire, pour le poste de chief minister, etc., c'est le BJP, qui est donc le parti qui gouverne actuellement, le parti de Modi.
Ouais,
et c'est le Congrès, qui est un parti qui a plus aucune validité à l'heure actuelle, parce que tu sais, ils ont gouverné, je sais pas pendant quoi, une trentaine d'années, c'était le parti, enfin de la corruption dans tous les sens, etc. Du coup, plus personne ne votera pour le Congrès, mais c'est une vieille machine qui est en train de mourir doucement. Et ensuite, il y a le Aam Aadmi Party, le AAP, qui est un parti qui a gagné à Delhi à un moment donné, qui lui est beaucoup plus, qui est vraiment axé anti-corruption, qui est plus proche des désirs de la population, à savoir le AAP. Ce qu'ils garantissent pour le Cachemire, c'est... Attends, c'est génial. C'est... En trois mots, c'est électricité, eau et un dernier truc. Enfin, les choses les plus basiques que tu peux demander quand tu vis dans un endroit, quoi. Bijli, électricité, pani, l'eau et sadak. Sadak, je sais pas ce que c'est. Mais du coup, c'est vraiment les demandes les plus basiques, quoi, du peuple du Cachemire. Du coup, les mecs n'ont aucun intérêt à aller voter, enfin... Il n'y a aucune motivation pour aller voter pour des partis du coup indiens. Enfin, il n'y a pas de parti indépendantiste non plus, tu vois. Il y a le Hurriyat, mais le Hurriyat, je crois que c'est des vieux, tu sais, c'est vraiment les vieux de la vieille qui tiennent ce truc, mais c'est personne n'a confiance dans ce machin-là. Du coup, en gros, bah, il est laissé à la fin très peu d'options pour les gens qui souffrent de l'occupation, si tu veux. C'est soit soutenir les milices terroristes, ce qui est du coup une réponse par la violence, mais juste en politique pure, en tout cas politique non violente, il y a rien qui les représente, si tu veux. Du coup, d'où le boycott des élections, qui leur paraît être la meilleure forme de résistance pour exprimer leur rejet complet de la politique de Delhi et de leur place dans l'Inde.
Chan mazkhun hajari aske myura